La mémoire au service des luttes et mouvements. Une série de balado-diffusion, d'alternatives et de la plateforme altermondialiste. Ici Jean Cloutier, réalisateur et technicien.
Et à la recherche musicale. Bell Hooks est le titre aussi d'un album par un groupe américain hip-hop, le groupe BBU. Ils ont sorti un album dans lequel ils ont dédié des chansons à Bell Hooks elle-même. Alors, c'était il y a plus de 10 ans, le 21 février 2012. Écoutons un extrait de cette chanson où on mentionne le nom de Bell Hooks. Et à la fin de l'entretien de cette personne, eh bien, on a un extrait vidéo d'une conférence à laquelle elle a participé sous forme d'interview où on peut entendre Bell Hooks. Race card, do the Ned Turner on Andrew Breitbart. Expose all you phonies for the way you act. Wanna claim America, but rock Confederate flag. Yo, all you motherfuckers best praise the law. The Shirley Sherrod, don't go to Dale Hassan. Go to Fox News, kill you all. Can't write these rhymes when I write these songs. So I'd rather write the songs and say fuck you all. Yo, BBU and Dawes, white America's karma. It's like Reaganomics, beats black power. Mix of Bell Hooks and Iran. Pack shout out Free Gaza, Jackson Minuteman, yo, Viva La Raza. Can't stop bringing that high yellow drama. Detroit Red Karma, black radical like a young Obama.
Please, no picture. You already know what it is, DJ Benzi.
Mix of Bell Hooks and Iran Contra. APAC shout out Free Gaza, Jackson Minuteman, yo, Viva La Raza.
Bell Hooks, une féministe révolutionnaire et anticapitaliste. La mémoire au service des luttes et des mouvements. Une série de balados par la plateforme altermondialiste et alternative. Aujourd'hui, nous allons parler de Gloria Jane Watkins, connue sous le nom de plume de Bell Hooks, avec Magali Civil, doctorante, à partir d'une recherche réalisée par Léo D. Pizot, bien-aimé. Magali est étudiante au doctorat en sociologie. Elle est membre du collectif de recherche sur les migrations et les racismes, COMIR, et assistante à l'enseignement à la Faculté des sciences sociales de l'Université d'Ottawa. Bell Hooks est une intellectuelle et militante afro-féministe qui a beaucoup défendu les droits de l'espèce humaine à travers ses écrits. Professeure, philosophe et défenseuse des droits des minorités, elle est morte le 15 décembre 2021, à l'âge de 69 ans, dans sa résidence de Berea, dans le Kentucky. Elle fut une gardienne de la sororité et croyait que le féminisme doit inclure tout le monde. La pensée féconde et libératrice de Bell Hooks laisse une trace remarquable dans le paysage théorico-politique du féminisme et dans la lutte pour l'émancipation des catégories subalternisées, surtout les femmes noires. Bonjour Magali.
Bonjour Jean.
Comment peux-tu résumer les travaux de Bell Hooks?
À l'aide de l'approche intersectionnelle, Bell Hooks analyse la complexité des identités et des inégalités sociales du système capitaliste destructeur dans une perspective de transformation sociale. Cette figure de proue du courant de la pensée politique Black Feminist se présentait comme une socialiste et une féministe révolutionnaire. À travers ses œuvres littéraires, scientifiques et politiques, l'Afro-américaine revendiquait le parti pris en faveur de l'émancipation des catégories dominées, exploitées et discriminées dans les sociétés.
Magali Civil, peux-tu nous préciser ses origines et son parcours intellectuel?
Bell Hooks est née le 25 septembre 1952 à Hopkinsville. Elle a développé le goût de la lecture dès son plus jeune âge. Hopkinsville, où elle a grandi, est un village rural et pauvre où s'étendait la ségrégation raciale. Cette réalité l'avait contrainte à débuter sa scolarité dans un établissement destiné aux Noirs. Ses parents sont originaires d'une zone rurale du Sud. Ils connaissaient une condition ouvrière modeste. Son père, Véodice Watkins, était concierge dans les services postaux. Sa mère, Rosa Bell Watkins, était une femme au foyer. Elle travaillait parfois comme domestique dans des familles blanches. Bell Hooks fut élevée dans une famille largement féminine, 5 sœurs et un frère. Pourtant, l'ordre patriarcal et la stricte discipline morale y régnaient. À l'époque, la ségrégation était très sévère. Les populations blanches et noires vivaient dans des espaces séparés ou réservés. Étant fille noire, Bell Hooks et sa famille avaient connu la ségrégation et la déségrégation, c'est-à-dire qu'elle a été très tôt confrontée à la problématique de la race dans le sud ségrégué où elle vivait. C'est dire qu'elle a été très tôt confrontée à la problématique de la race dans le sud ségrégué où elle vivait, tout en faisant l'expérience d'une certaine violence liée à la structure patriarcale de sa famille, rapporte Eva Thibault. Quand Martin Luther King fut assassiné en 1968, Bell Hooks avait 15 ans. Tôt dès sa jeunesse, elle a été influencée par des œuvres littéraires et politiques de James Baldwin, Sojourner Truth et Martin Luther King Jr. En 2012, elle a déclaré d'ailleurs que Martin Luther King lui avait appris l'importance d'une communauté bien-aimée. En 1973, elle a obtenu un baccalauréat en études anglaises de l'Université de Stanford. Elle a poursuivi une maîtrise dans la même discipline à l'Université du Wisconsin, où elle a commencé à rédiger « Ne suis-je pas une femme ?». Toutefois, elle décrocha sa maîtrise en Californie dans un programme en littérature. Après la présentation de sa thèse doctorale sur Toni Morrison, écrivaine libre, militante et révoltée, Bell Hooks fut recrutée comme professeure d'études africaines et afro-américaines dans la prestigieuse Université de Yale, dans le Connecticut. Elle est devenue maîtresse assistante d'études féministes et de littérature américaine à Oberlin College. Ainsi, elle a travaillé dans de précieuses institutions d'enseignement supérieur au Connecticut, en Ohio et à New York. Elle enseignait à Berea College depuis 2004 et a fondé une décennie plus tard le Bell Hooks Center. Elle a publié des dizaines de livres qui ont contribué à façonner le discours universitaire. Ses œuvres marquantes comprennent « Ne suis-je pas une femme ?»,« Femme noire et féministe »,« Am I a woman ?»,« Black women and feminists » et « De la marge au centre, théorie féministe »,« Feminist theory from margin to center ».
On connaît Bell Hooks comme une théoricienne de la pensée intersectionnelle. Comment opère-t-elle le lien entre la lutte contre le racisme et celle contre le sexisme et l'oppression des femmes?
Parmi ses idées les plus célèbres, on trouve celle sur le féminisme défini comme étant un mouvement pour mettre fin au sexisme, à l'exploitation sexiste et à l'oppression. Elle a commencé à ouvrir la réflexion sur la pensée intersectionnelle en 1981. Bell Hooks retient l'attention par le génie et la profondeur de sa pensée. Son œuvre traite à la fois de l'implication des oppressions plurielles et de l'éducation comme pratique libératrice à la manière de Paulo Freire. Elle aborde aussi la sororité perçue comme un engagement partagé des femmes dans la lutte contre la domination, de l'analyse du racisme dans la pensée féministe dominante, du sexisme dans les mouvements antiracistes et de l'éthique de l'amour dans les luttes politiques. Ainsi, l'écrivaine a consacré une bonne partie de ses recherches sur l'expérience humaine et l'influence des stéréotypes dans différentes sphères de la vie sociale, du cinéma à l'amour. De ce fait, dans son ouvrage « All About Love », elle atteste que beaucoup de ce que nous avons appris sur la nature de l'amour n'a pas de sens quand on l'applique dans la vie quotidienne. De notre côté, la militante pense que les hommes sont un allié dans la lutte féministe. Ils ne doivent pas être exclus. L'autrice féministe d'avant-garde situe ses recherches au carrefour des corrélations entre origine, genre, économie et politique. Elle laisse une œuvre abondante, riche et remarquable, où essais et recueils se mélangent aux autobiographies.
Magali, quelle est la valeur et la portée de l'œuvre de Bell Hooks?
L'œuvre de Bell Hooks est d'une richesse impressionnante qui lui a valu une réputation internationale. L'autrice et critique culturelle nous laisse une œuvre gigantesque, inspire et permet l'épanouissement de la pensée transformatrice des opprimés. Les idées de la théoricienne afro-américaine ont retenti avec puissance parmi les mouvements féministes et politiques contemporains. Lorsqu'Elsa Dorlin rend hommage à cette icône du féminisme, elle mentionne que, je cite Dorlin, Bell Hooks est et restera l'une des rares théoriciennes à demeurer au plus proche du réel, à penser la vie, la violence, la politique, le militantisme au jour le jour, se faisant tour à tour poétesse, essayiste, pédagogue, critique, conteuse pour enfants, résistante, guérisseuse, révolutionnaire. Time Magazine avait récompensé l'intellectuelle philosophe en 1984 pour la qualité de son travail en la nommant personnalité de l'année. Pour le Time, la militante est une rockstar rare d'un public intellectuel qu'elle avait dépassé en restant accessible pour des générations de filles noires. Hooks a été un rite de passage. Par-delà ce discours, l'intérêt de ces analyses présente un sentiment d'humanité fondamental de l'être humain. Cette passion qui l'anime l'amène vers un parti pris nécessaire en faveur des femmes noires, en passant par l'opposition et la résistance au patriarcat, capitaliste, impérialiste, suprémaciste blanc, et en débouchant sur une articulation de la pensée qui revendique la dignité humaine. L'autrice adopte une posture engagée, inspirée des travaux du pédagogue brésilien Paulo Freire, teintée d'une épistémologie politique qui guide l'œuvre de Bell Hooks. C'est aussi au nom de cette approche qu'elle contredit l'hégémonie de la suprématie blanche et de sa théorie qui occulte les dominations des Noirs. L'engagement fait d'elle l'une des figures exceptionnelles de la lutte féministe antiraciste.
Peux-tu, Magali, en tant que doctorante en sociologie, nous préciser dans ses ouvrages les concepts clés de sa pensée et comment elle les a développés?
Comme théoricienne du courant féministe révolutionnaire, avant même que la notion d'intersectionnalité prenne de l'ampleur dans le paysage théorico-féministe contemporain, pour peindre le poids du racisme et du sexisme sur le vécu des femmes noires, elle était déjà introduite dans l'œuvre de Bell Hooks. Ainsi, dans son ouvrage « Ne suis-je pas une femme », Bell Hooks a mis l'attention sur ce concept sans le nommer et a articulé sa pensée autour de la perspective intersectionnelle. Ce texte analyse l'expérience esclavagiste des femmes noires, les formes de violence dont proche le vécu des femmes noires esclaves, leur exclusion, leur dévaluation de la féminité noire, le poids de l'impérialisme patriarcal et les problématiques de race, de classe et de genre, tout en invitant la gente féminine noire à sortir de l'ombre. Bell Hooks, dans sa démarche, pointe du doigt la dévaluation des femmes noires qui perdure dans le discours féministe dominant blanc. Elle critique le fait que celui-ci écarte l'existence et le propos des femmes noires. Elle dénonce en même temps le racisme des femmes blanches. Pour Bell Hooks, le sentiment de colère et d'exaspération exprimé par les féministes blanches ne remet pas en question l'ordre social patriarcal. C'est en ce sens qu'elle condamne l'invisibilisation des femmes noires dans les luttes pour les droits civiques des femmes. Elle reconstitue les expériences de résistance de Mary Church Terrell, Anna Julia Cooper et Sojourner Truth pour plaider en faveur de la visibilité des femmes noires. Dans la même veine, Bell Hooks critique sévèrement les politiques de domination exercées contre les Noirs dans son livre « De la mort jouissante ». À travers cet essai, elle met en avant la nécessité de penser l'imbrication des dominations dont sont confrontées les femmes noires. Elle insiste sur la dimension politique orientée vers le racisme et le sexisme et orchestrant la marginalisation de ces femmes. Pour la révolutionnaire féministe, les mécanismes de domination ne doivent pas être analysés séparément, mais dans leur imbrication. À ce propos, elle postule que, quelle que soit la classe sociale, la race, la religion ou l'orientation sexuelle de la femme, l'oppression est vécue au même titre. Ainsi, pour Bellux, le sexisme n'est pas le seul facteur d'oppression à combattre. Les femmes noires ont une connaissance intime du patriarcat et développent au quotidien des stratégies de résistance face à lui. Tandis que les féministes blanches agissent souvent à titre libératrice, ce qui laisse croire que les femmes racisées, exploitées et discriminées ne sont pas au courant de leurs propres conditions d'existence dans le système patriarcal. Par-dessus le combat contre le patriarcat, Bellux a accentué un ensemble de notions dans le but de renforcer la dimension théorique de la lutte. Le sens qu'elle accorde à la sororité et à l'amour est d'une inspiration remarquable. Dans cette perspective, elle développe l'idée selon laquelle la sororité implique une solidarité qui ne concerne pas seulement la prise de conscience d'une position objective commune, mais qui implique une dynamique de transformation. Pour Bellux, la sororité apparaît comme une solidarité qui passe au-dessus de la frontière raciale qui divise les femmes. Elle suppose dès lors, je la cite, d'affronter la manière dont les femmes, que ce soit par le sexe, la classe ou la race, ont dominé et exploité d'autres femmes. Cette démarche consiste à dépasser la condition objective de l'expérience commune de la souffrance et de l'oppression. C'est pour cela qu'elle refuse de définir la solidarité sur l'attraction mutuelle née de la souffrance partagée. Donc, l'idée d'une solidarité politique pour caractériser la sororité repose sur un engagement partagé dans la lutte, affirme-t-elle. Donc, l'idée d'une solidarité politique pour caractériser la sororité repose plutôt sur un engagement partagé dans la lutte, selon elle. Nous avons effleuré l'importance de l'amour dans l'œuvre de Bellux. Il est nécessaire ici de préciser que, pour elle, l'action politique trouve sa motivation par l'amour. Celui-ci détient la capacité d'extirper les différents axes de domination quand l'objet de l'amour, pour elle, est d'éliminer le chemin emprunté par les structures de domination. En somme, la pensée de Bellux décrit la réalité des catégories subalternisées dans les sociétés. Elle trouve sa valeur dans la façon dont elle met en lumière le vécu des femmes marginalisées qui sont occultées dans les écrits féministes. Parmi les préoccupations de l'autrice, on remarque l'attrait pour la transformation de la théorie féministe concernant l'expérience des femmes noires racisées et discriminées.
En terminant, Magali, pourquoi associe-t-on Bell Hooks au penseur et pédagogue mondialement connu, le Brésilien Paulo Freire, à qui l'on a décerné 35 doctorats honoris causa, dont quelques 350 écoles ont été désignées à son nom propre?
Le travail de Bellux est fortement influencé par Paulo Freire. Elle suscite une réflexion éducative sur l'émancipation. Ses réflexions pédagogiques et sa philosophie éducative inspirent la nécessité de concevoir la pédagogie comme pratique de la liberté. Le fait que le féminisme radical de Bellux tient compte des oppressions de sexe, de classe et de race, il permet de relever les contradictions relevant de l'éducation. Sa démarche met à nu les enjeux relatifs à l'invisibilisation des populations noires issues des classes populaires, notamment des femmes. Enfin, Bellux propose et met en lumière une pédagogie engagée axée sur la libre individualité de l'être humain et l'amour du bien-être et du respect de l'autre. Une telle pédagogie est orientée à la fois vers la libération, l'inclusion et l'anti-oppression. Bellux construit ainsi un édifice de conscientisation qui vise la formation complète du sujet conscient. Elle fait en sorte aussi de produire des connaissances qui sont accessibles à tous. Dans son livre « Apprendre à transgresser, l'éducation comme pratique de la liberté », Elle parle de théorie. Et pour elle, toute théorie ne pouvant être partagée dans une conversation du quotidien ne peut être utilisée pour éduquer le public. Car, dit-elle, c'est en effet le but d'une telle théorie.
Merci, Magali Civil, de nous avoir présenté la vie et l'histoire de cette figure féministe émancipatrice à partir de la recherche de Léo des Pizot bien-aimé. Nous espérons que la présente balado-diffusion connaîtra une large diffusion parce que la lutte qu'elle menait en faveur du bien-être des peuples opprimés n'est pas encore aboutie. La présente balado-diffusion est produite par Plateforme altermondialiste et Alternative dans le cadre de la série « La mémoire au service des luttes et des mouvements » qu'on peut retrouver sur les sites des deux mouvements.
Merci, Jean.
Merci, Magali.
The fact that a bell hooks can have the incredible readership I have tells us, I want to say to you, Ken, I think people are hungry for dissent. I think people are hungry for provocative voices that go to the heart of the matter. Because people want to have answers to the things that they are in crisis about. So, I mean, there's an irony that on one hand, we have a mass media and a publishing industry particularly that tells us, keep it mellow, don't say anything. But what I find is people are really hungry for truth. And that hunger, as I said in my book, Yearning, I think is something that unites us, cross class, race, sexual preference and practice, religion. And I see the hope that I feel within my own and with other people is that hunger for truth and for ways to live our lives more fully, in a manner that's more fulfilling. And it's that hunger that keeps a place for the dissenting voice, that keeps the place for speaking freely, because that is both an endangered space and a space, on the other hand, where we have more people than ever before who are hungering to hear that dissenting voice. And I think that that's the paradox, that on one hand, there were moments in our recent history as a nation where I felt truly frightened. You know, for the first time in my life, my mother called me and said, you must be really careful what you say when you get up on stages because you could be assassinated. And I think that certainly, if nothing else, the September 11th events around the World Trade Center brought into focus that we are a nation where many people are afraid of free speech and want to silence people. And if we cannot acknowledge that will to silence is growing, that's what King meant when he talked about standing in the shadows of fascism. So on one hand, I experience for the first time ever as a citizen of this nation, feeling that I was taking grave risk in standing before audiences and saying the things that I believed. And at the same time, you know, I had audiences that were eager to hear, well, what do you think about this? Audiences of people who may or may not have agreed with me. So that's the paradox that we live within, a society that is full of promise and possibility, and a society that, on the other hand, will close things down if people feel they need to protect the lifestyles or the belief systems that they think are the only important belief systems. And that's the difficulty. But I'm one who believes in the outrageous pursuit of hope.
Your entire career has been about free speech, and we thank you for joining us today on Speaking Freely, Bell Hooks.
And I thank you for giving me the opportunity to speak freely.
Join us next time as we continue our discussion on free expression and the arts. For more information about Speaking Freely, visit our website at www.speakingfreely.org.
La mémoire au service des luttes et mouvements.